qui n'a vraiment peu d'intérêt. Voilà, ben maintenant je peux le dire, j'ai été sondé, donc je sais de quoi je parle. Merci, salut.
Intéressant, hein, ce témoignage est très intéressant. Les sondés ainsi se fabriquent l'opinion, parce qu'à partir évidemment de ces résultats, eh ben on va éditorialiser, on va tirer des plans sur la comète, etc. Et c'est quand même intéressant. Merci aussi pour la MGD, l'auditrice modeste et géniale, de droite, comme s'il n'y avait que des AMG de gauche. Il y a des AMG de tous les côtés, et on en a la preuve quotidiennement dans la boîte vocale de la Bassigissou au 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, on va retourner en Indonésie. Vous le savez sans doute, Suharto, l'ex-dictateur indonésien, est mort ce dimanche 27 janvier à l'âge de 86 ans. Et ça va être l'occasion pour nous de retourner en Indonésie où nous étions en 1998, exactement le 22 mai 1998, lors de la chute de Suharto. Ça a été une nuit particulièrement violente, d'attente et décisive pour la vie de cet immense pays qu'est l'Indonésie. Et nous y étions, et on a eu envie aujourd'hui, avec Guy, de revivre et de vous faire revivre cette nuit capitale dans l'histoire de ce pays. Et je vais d'abord évoquer rapidement à la fois l'Indonésie et le parcours de Suharto. L'Indonésie, c'est 230 millions d'habitants, c'est 17 000 îles, c'est un grand ensemble, et on méconnaît ce pays chez nous. Java, Bali, Bornéo, ça dit quelque chose, mais ça reste assez vague. 350 années de colonisation hollandaise, indépendance 1949 et émergence d'une grande figure qui est celle de Soekarno. Il faut pas confondre Soekarno et Suharto. C'est deux personnages tout à fait différents. Soekarno, c'est celui qui, en 1955, participe à la conférence de Bandung, la conférence des non-alignés, et avec Nehru, avec Nasser, il s'agit de constituer une force politique capable de se soustraire à l'emprise des deux grands blocs à l'époque, le bloc capitaliste et le bloc soviétique. Et évidemment, c'est quelque chose qui ne va pas plaire au camp occidental, aux États-Unis, d'où l'arrivée au pouvoir en 1965, le 30 septembre 65, de Suharto par un coup d'État soutenu par les États-Unis. Et là, il va s'en suivre une purge, un massacre, on a parlé de génocide, contre les communistes, entre guillemets, mais ça ne se limitera pas aux communistes, ça ira à leurs sympathisants et au peuple en général. Et le chiffre, le nombre de victimes croûment admises est de 500 000 victimes. Je dis bien 500 000 victimes, même si certaines sources donnent des chiffres bien plus importants. Communistes, sympathisants, simples paysans. C'est une répression et des massacres d'une violence inouïe et qui est suivie de déportations dans certaines îles, dont la sinistre île de Buru, qui sera très longtemps l'un des synonymes du goulag indonésien. Mais la répression continuera sur les familles, avec des assignations à résidence, des répressions, des surveillances, de tout ce qui peut ressembler à l'ombre du début d'une opposition au régime installé par Suharto et son ordre nouveau. Actuellement, par exemple, il arrive que les touristes ébahis de Bali s'aperçoivent soudain qu'ils sont au-dessus d'un charnier des victimes de cette époque-là. Donc, 32 ans de dictature pour Suharto, mais avec une vitrine démocratique. Les États-Unis sont derrière, le camp occidental est derrière, et qui dit dictature dit stabilité, et qui dit stabilité dit un endroit intéressant pour les investisseurs. D'où, effectivement, les investisseurs investissent en Indonésie, d'où une certaine croissance, mais aucune redistribution, c'est-à-dire, on va dire, le niveau augmente en Indonésie, mais sans aucune redistribution,